Chapitre 4. Le long des rues, un bouleversement d'arrivées de charrettes et de bétail. Des femmes, corbeilles sur tête, avançant par rangées hâtives en travers de la route. Des métayers, blouses au vent, le béret aplati sur le crâne, portant dans leurs mains les sachets de vente où les grains sont échantillonnés. Et devant les portes, les voitures, une à une à la file, sont remisées, défraîchies ou pimpantes, de tout modèle, les unes vieilles avec un air de tombereau, d'autres bourrées de paille, boîtes carrées que les cahots des travers sont disloqués, celles-ci encore boueuses sous leur vernis de poussière, celles-là neuves avec des capotes de cuir que les brûlures de l'air ont verdies. Plus loin sont les voitures de maître, breaks gigantesques ou chars à bancs sauteurs, et vers les beaubourgs, voici les vrais charroirs coiffés de bâches dont les tentes s'allongent, maisons roulantes poussées dans le désarroi des rues. C'est l'après des marchés, du mardi envahissant Belpêche comme une marée, le secouant de ses somnolences matinales, et quoique la plupart des volets soient enclos qu'aux fenêtres des cuisines qui de loin en loin baillent sur la chaussée, des groupes se forment, jasant, gesticulant d'avance, s'égosillant en attendant que la vente batte son plein. Un bruit de dispute suraigu, une traînée de bavardages criards, grossis à chaque détour de ruelle, monte du pont de la Victe siège jusqu'au cœur de la ville où les halles s'étalent dans un débordement fiévreux de bazar en plein air, et un déballage hétéroclite d'ustensiles, de victuailles, d'approvisionnement de ménages et de merceries de rencontres. Toute la vie de la semaine est refluée là, bêtes, gens, nourriture et tous les coloris s'y étalent. Au centre, les légumes mis par terre sur des toiles, tassés en piles ou jetés pêle-mêle dans des corbeilles rondes, carottes rouges vives haussant leurs pointes sur le vert assombri des oseilles coupées par bottes, oignons en chapelet à tons de nacre rose, ouvrant leurs feuilles de chair vive à la sortie en gerbe des paniers. Ainsi attachés aux cordes de paille, ils ressemblent à des tresses de cheveux blonds, et à côté de ces tendresses de teinte, les cèpes mettent leurs notes très sombres, un brin de velours chatoyant sous la lumière que coupent les dessous blancs. Plus loin, les pêches suintant le sucre en rosée éclatent comme un bouquet de roses du Bengale, crèvent l'œil à force de rouge et de jaune flamboyant, et c'est toute la série des raisins, des poires juteuses à demi écrasées, se meurtrissant les unes les autres comme en une pamoison. Derrière elles, les vendeuses sont assises, madras au vent, jeunes ou vieilles, à silhouette crochue, toutes ayant la peau brunie sous le temps du soleil, et les hommes passent, criant des mots patois qui fendent l'air, avec des poussées brusques vers le coin du blé où les blouses se serrent, dans une confusion de lamentations sur les prix baissés et d'enjôlement d'acheteurs. À chaque fusée de lumière tombant sur la place, les poteries reluisent. Les quincailleries de hasard que les roulottes ont dégorgées par terre s'éclairent de zigzags lumineux, et dans les voitures à double auvent, les viandes saignent pendues au croc, tandis que devant elles, les bouchers se dressent, le tablier au cou, se croyant à une criée tant ils s'époumonnent à arrêter les impatiences. Pourtant une chaleur moite, cette fade odeur d'homme, l'âcre senteur de la poussière s'exhale dans ce coin de place où deux lieux carrés de pays se sont déversés, produits et habitants. De loin, on croirait à un piétinement furieux, au remuement d'une fourmilière affolée, et à voir ces entrecroissements d'êtres, ce roulis de gens que la balle garde attiré par une force d'aimant. Une pitié saisissait en même temps que ce sentiment de fatigue découragée produit par les grands efforts consumés dans les petites choses, les extravagances de vie, des pensées à des riens. Ce matin-là, point de soleil, non des nuages lourds, un éclairement faux que jetait à la réverbération des pavés l'orage prêt à crever, l'air mou comme si l'on se fût agité dans de l'eau tiède. D'être venu lentement depuis la visa, Stéphane était harassé et l'agitation du marché à laquelle il ne s'attendait point achevait de l'effarer. À passer entre les voitures et les croisements de salut dans ce tumulte bon enfant de gens rencontrant à leurs affaires, l'âpre regret de sa tranquillité perdue le prenait ainsi qu'un dépaysement, comme si chaque maison autour de lui fût devenue gouailleuse ou inconnue. De la veille, seule une impression de cauchemar lui était restée. Son initiation brutale à la vie réelle avait été un de ces spectacles horribles entretenus une fois que l'imagination garde gravé dans un repli avec la volonté tenace de ne jamais plus le retrouver. Sans la démarche qu'il venait tenter, sans son amitié dont l'inquiétude toute la nuit l'avait troublé, ses ignominies auraient passé sur lui comme l'ombre sur le marbre, n'y laissant d'autre trace qu'un peu de froid. Mais maintenant qu'il approchait du but, étourdi par le grondement du marché et ce papillonnement d'êtres et de gestes dansant sans trêve devant les yeux, une émotion le serrait. Il ressentait l'effroi de l'inconnu, avait aux membres un frisson de fièvre, et volontiers serait parti n'ayant rien fait ni vu son ami, tant toute chose l'épeurait, surtout l'incertitude de l'accueil. Pourtant, il avançait avec la même résolution aveugle qui la veille avait exaspéré Sidonie, et cela dominait en lui les craintes vaines, les répulsions puériles. Il venait accomplir une œuvre de justice, se sentait une sorte d'envoyé providentiel et augmentait sa mission de toute la grandeur de sa propre frayeur. Une frayeur mêlée de honte et sans raison, rappelant les révoltes du corps aux approches d'une opération douloureuse. Tout à l'heure, sous le porche de l'église, où les cordes des cloches tombaient, cirées et jaunissantes, comme un sacristain sonnait une messe avec un balancement rythmé des bras, il s'était approché, demandant à voix étouffée où demeurait M. Mouillac. Il n'aurait point su dire quel instinct, mouvement, l'avait conduit là pour faire pareille demande, ni cet attrait que lui avait jeté l'ombre du portail, le parfum de confessionnal qui de l'église arrivait, ce vieux branlant et sourd dont le regard à demi éteint ne devait plus interroger. Il s'imaginait qu'à prononcer le nom de Mercier, ses lèvres se seraient salies, et il avait balbutié, attendant docilement sur un geste de l'homme qu'il est fini de sonner. Au-dessus, derrière les baies à jour de la façade, la cloche dansait, suivant la danse de la corde qui montait vers elle par brusques lampées, comme attirée vers les choses sereines, et l'éclat maigre de cette dinderelle dominait la voix du marché qui, elle aussi, s'élevait énorme. Le tintement de messe s'éparpillait avec une lamentation d'enfant sur l'espace trop grand, frappant les airs par saccades, gardant surtout dans le ralentissement des battements une sorte de regret qui pénétrait l'âme, et une tristesse d'agonie semblait en descendre, cette agonie grise de départ sans espoir de retour dont rien ne saurait endormir les mélancolies. « Qu'est-ce qu'il vous faut ?» avait repris le sonneur, retenant du pied la corde que des halètements haussaient encore vers le haut. « Vous ne savez pas où demeure M. Mouillac ?»« Mouillac ?»« Oui, M. Mouillac. » Et comme ce nom ne paraissait point lui revenir, Stéphane avait insisté, saisi d'une honte, Vous savez bien, celui qui se marie avec la Mercier. Alors le vieux avait eu un rire silencieux, ce rire du paysan qui s'entend dans une malice méchante, et de le voir rire ainsi, Stéphane s'était senti plus angoissé. Mon Dieu, serait-il déjà marié par hasard? Oh non, c'est pas fait, mais ça se fera. Et aussitôt, gardant aux lèvres son ravissement de raillerie, le sacristain avait montré du doigt, là-bas, plus loin que la place, cette même maison où la veille Monsieur Mouillac s'était engouffré. C'est beau, merci. Je vous remercie. D'avance, Stéphane savait que ce serait là, mais il avait eu peur en passant, n'osant ni entrer ni demander au hasard. Et maintenant que de nouveau il se retrouvait devant la porte, toutes ses hésitations le reprirent. Il lui suffisait de se savoir arriver à temps pour éprouver de nouveau le désir de se soustraire au devoir d'impérieuse amitié qui l'avait conduit là. Sans la porte ouverte qui semblait l'attendre, l'espérer presque, tout son courage se serait évanoui. Il donna un coup de marteau, entra et attendit dans l'obscurité. Devant lui s'enfonçait une sorte de boyau noir servant de corridor. Rien ne répondit, mais un silence planait comme si toute la demeure eût été encore ensevelie en plein sommeil. Alors il éprouva un mouvement de joie, involontairement ravi de ne trouver personne, et avant de repartir, il frappa de nouveau, sans anxiété. Le marteau retomba avec un bruit très sec. Par un involontaire rapprochement, il se souvint de la sonnerie désespérée, presque tendre, que faisait le timbre de la rue du Vieux Raisin, le jour où il s'y était heurté au logis vide. Autant elle était timide et suppliante, autant ici le coup bref du marteau déchirait l'air avec une violence impérieuse, un augure d'accueil rude et revêche. Et comme il s'apprêtait à frapper encore, une porte s'ouvrit. Il entendit le bruit d'une marche d'homme hésitante, puis une voix grêle qui tremblait. Que demandez-vous? Il se retourna brusquement avec une exclamation de surprise. Ah, Seigneur, vous, monsieur Mouillac, vous que je cherchais. Au fond du couloir, la voix du petit homme répondit comme un écho vibrant d'étonnement. Vous, monsieur Deschantres? Et ils restèrent tous deux muets comme pétrifiés. Stéphane, le cœur serré, lui, bouleversé par la présence de son élève. On l'avait laissé seul à garder le logis pendant le marché. Même sans l'assistance mise à frapper, jamais il ne serait descendu pour ouvrir. Et le trouver là, Stéphane, oh, il ne savait plus que dire, répétant seulement vous, mais vous, c'est vous. Eh oui, moi, il y a si longtemps que je voulais vous voir. Tout de suite, ce mensonge était venu aux lèvres de Stéphane, repris irrésistiblement par le charme délicieux des joies éprouvées ensemble. Monsieur Bouillac, pourtant, continuait à le contempler avec un embarras, une sorte de peur timide dont s'enveloppait le contentement de leur revue. Et soudain, leurs yeux se rencontrant, ils se sourirent avec un sourire niais. Selon l'étonnement des gens qui ont trop à se dire et ne savent comment en venir à bout. Alors voyons, vous ne pouvez pas rester là, fit Monsieur Mouillac, d'un air incertain, n'osant faire entrer Stéphane, ni refuser sa porte. Où vous voudrez, répondit Stéphane. J'étais venu seulement pour vous parler, vous comprenez? Oui, je comprends. Et il piétinait sur place, barrant toujours le couloir où le demi-jour répandait un air morne, en même temps que des chambres venait une odeur vague, moitié parfum, moitié cuisine. Et brusquement, avec un soupir, il se décida, allez, venez, nous serons mieux là-bas. Et il alla jusqu'au fond, suivi par Stéphane, qui avançait à tâtons, ouvrit la porte d'une cuisine, la traversa, et devant eux, un jardinet carré étalait sa verdure coupée par des allées droites, plantées d'arbres qui tous se ployaient sous des chars de fruits. Au bout de celui-ci, une lessive séchant sur les cordes jetait une note criarde de langue blanche, étrangement ressortie sur la masse gris-noir du ciel. Bien, pas de banc, reprit Monsieur Mouillac, arrivé au seuil de la maison. Mais qu'est-ce que cela fait? Oh oui, certainement, qu'est-ce que cela fait? Répéta Stéphane. Puis tous deux entrèrent dans une des allées latérales, se cognant parfois les coudes pour éviter de marcher dans le buis qui formait les bordures. Monsieur Bouillac continua avec un sourire. Bien, il faut que je vous félicite, j'ai su que vous étiez reçu. Ah, vous le saviez. Oui, j'avais écrit là-bas à la faculté, ils m'ont répondu le lendemain de votre examen. Et hochant la tête, il poursuivit. Vous vous souvenez, je vous l'avais prédit l'avant-veille. La chance, on finit toujours par avoir de la chance. Il faut l'espérer, du moins. Mais en disant cela, il semblait qu'il l'enveloppait d'un regard attendri et pitoyable. Tandis que lui aussi, Stéphane, sentait l'ironie amère de cette chance évoquée par le pauvre homme au moment où son amour allait crouler. Mais comment se fait-il que vous soyez à Belpêche? Oh, c'est bien simple. Et Stéphane s'expliqua en deux mots. Sa mère était malade à Toulouse à cause des grandes chaleurs, tandis qu'ici elle allait à merveille. La veille seulement, la migraine avait menacé de la reprendre. Ce ne serait rien, enfin, il l'espérait. Et comme M. Mouillac ne répondait pas, prenant au nom de Madame Deschantes un air embarrassé, Stéphane poursuivit troublé. C'est bien étonnant que je ne vous ai pas rencontré jusqu'ici. Bon, je dors si peu, vous le voyez, c'est moi qui garde la maison, ça vaut mieux. En même temps, M. Mouillac eut un sourire, se rappelant sans doute ce bonheur d'aimer dont il vivait depuis 15 jours. Étrange vie au reste que celle qu'il menait là. Une claustration plus sévère encore que celle de Toulouse, où la Mercier et sa mère l'avaient retenu sous prétexte qu'ils ne connaissaient personne. Un isolement de cloître auquel il s'abandonnait sans se récrier, ravi par une intimité jamais encore connue, et désormais, au milieu de ses dorlotements, sa vie de garçon lui semblait si dépaysée, si solitaire, qu'il souriait d'aise à penser qu'elle ne reviendrait plus jamais. Vous savez que c'est décidé, n'est-ce pas? Nous nous marions samedi, fit-il gaiement. Stéphane tressaillit. Samedi? Oui. Un brusque silence tomba. Stéphane étant rappelé soudain la réalité, et lui perdu dans une songerie d'enfant. De la place, le roulis de la vente leur venait maintenant. Tamisé, toutes les discordances de voix s'étant fondues dans un grondement sans repos. Par instant seulement, l'éclat d'une voiture lancée dans la rue, le traversé d'un grésillement de gravier broyé, et la clameur de ses piétinements d'être avec quelque chose de formidable. Machinalement, ils avaient quitté les allées étroites des côtés du jardin, passant et repassant le long du mur de la maison, devant les fenêtres de la cuisine, qui, béantes, semblaient les surveiller. Et M. Mouillac reprit comme bercé. Voyez-vous, c'est si bon d'être heureux. Le temps passe, les heures n'existent plus. 20 jours déjà que je suis ici chez elle. Elles m'ont installé dans une chambre de la maison. Il n'y a rien à redire, n'est-ce pas? Puisque samedi nous serons mariés. Oui, samedi, oh, j'ai beau faire. J'ai peur à force de jouir de la vie. Ces bonheurs-là sont injustes quand tant d'autres souffrent. Si vous la connaissiez, vous pourriez me comprendre. Près d'elle, je n'ai plus qu'un rêve, rester ici comme maintenant. Je ne suis pas riche, c'est vrai, mais d'un bon travaillant. Je l'aime tant. Et sa voix s'amollissait comme si réellement Suzanne Mercier eût été là pour l'entendre. Tout le poème de sa vie s'y exhalait en paroles douces, en tonalités affectueuses. On le sentait si profondément courbé, anéanti dans l'adoration de cette femme, que Stéphane en eut une révolte. Non, il ne reconnaissait plus son maître. Quelque chose était changé dans son être. Cette extase où il paraissait vivre avait accaparé son cœur comme on avait accaparé ses journées en l'enfermant dans la maison. Pas même un mot pour leur rencontre de la veille. Rien que des paroles pour cette fille. Une colère mêlée de dégoût le saisit. Sentir son ami dupé, tant d'honnêteté fourvoyée dans cette ignominie l'aveuglait. À toutes les phrases du monologue amoureux de M. Nouillac, sa volonté de la veille, âpre, implacable, le ressaisissait. Et à la fin, son inquiétude devenant aiguë, il lui sembla que son ami était déjà à moitié perdu, que si Denis avait eu raison, que chaque minute de plus passée là les souillait l'un et l'autre. Il l'interrompit brutalement, jetant son secret dans un cri. « Mais taisez-vous, ne parlez plus d'elle. Mais partons d'ici. Je suis venu vous chercher, vous entendez. Il faut partir d'ici, sans regarder derrière vous. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait, la misérable. » Monsieur Mouillac s'était arrêté net, ne comprenant pas d'abord, mais Stéphane lui saisit les mains violemment. « Partons, il le faut !» Et comme le professeur gardait la même immobilité muette, « Mais vous ne savez donc rien !» s'écria-t-il. « Mais sans cela, est-ce que j'aurais jamais osé revenir, puisque vous étiez fâché contre moi ? Oh, ne niez pas, vous l'êtes ! Je vous ai vu hier passer sans même me regarder. Partons, je vous en supplie. Voyons, personne ne vous a donc rien dit ? Vous n'avez interrogé personne ?» Monsieur Mouillac eut une brusque secousse, et se dégageant de son étreinte, « Mais qu'est-ce qu'on dit ? » fit-il, étranglé par l'anxiété. « Mais qu'est-ce que je ne sais pas ?» Alors Stéphane, exaspéré, répondit d'une voix sifflante, « Mais vous n'avez pas deviné que c'était une fille et qu'elle a couché avec les autres ?» Il y eut une seconde où ils se regardèrent épouvantés. Monsieur Mouillac était devenu très pâle, un tremblement de fièvre lui secouait les membres, et il restait les yeux dans les yeux, Stéphane avec une angoisse de le voir refuser de partir, et lui les pupilles brillantes, avec un regard vague de fou. Au bout d'un instant, Stéphane reprit, « Mais partons, je vous en supplie !» Mais Monsieur Mouillac l'interrompit avec une explosion de voix terrible. « Mais tu mens, misérable, tu n'as pas de preuves !» Une colère effroyable montait en lui, avec le besoin animal de briser quelque chose, de se venger sur un être de l'insulte à celle qu'il adorait. Et dans sa violence, continuant de tutoyer ce gamin infirme qui s'attaquait à son amour, il bégala de nouveau. « Mais tu n'as pas de preuves !» Comment il n'avait pas de preuves ? Il fallait donc tout lui dire, puisqu'il se refusait à croire quoi que ce fût. Mais c'était horrible qu'il s'obstinât à vouloir rester là. Cette Suzanne Mercier l'avait enjôlée, aveuglée. Des mots de Sidonie revenaient dans la bouche de Stéphane avec une rage de se heurter à cet entêtement inattendu, et il répliqua violemment. « Pas de preuves, mais demandez autour de vous. Tout à l'heure, quand je me suis fait indiquer votre demeure, le sonneur, en apprenant que c'était vous le fiancé, s'est mis à rire. Ah, si vous l'aviez vu rire! Mais tous, tous vous le diront. Si au moins vous aviez pris la peine de questionner ceux du pays, au lieu de rester enfermé à garder la maison. Mais puisque c'est venu jusqu'à moi, qui, Dieu merci, ne me doutait de rien. Mais jusqu'à moi, vous entendez bien. Pas de preuve alors donc. Mais tous vous le répéteront, qu'elle a été 2 ans avec mon cousin Ferramus, avec tous ceux qui voulaient. Mais Monsieur Mouillac lui avait pris le bras, le serrant à le briser. Tais-toi, pour Dieu! Tout ce que tu dis est faux. Tu as beau jeter de la boue sur elle, tu ne peux pas la salir. Et il eut un rire sinistre. Mais les autres, oh, parlons-en. Je suis sûr qu'ils m'envient. C'est leur façon lâche d'envier, cracher sur l'honneur de la femme qu'ils n'ont pas. Et ils s'exaltaient maintenant, parlant par phrases triomphantes, que Stéphane coupait, lui jetant les noms d'amants qu'il connaissait à cette Mercier diabolique. Et leur dispute montait, peu à peu dominant le bruit énorme qui venait du marché, emplissant le voisinage, les maisons, les jardins d'à côté, sans souci d'indiscrétion ni d'injure, quand une voix, tout à coup, s'éleva au-dessus des leurs. Haletante, furieuse. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici, ce gars de malheur? Ah, je me doutais bien qu'il voudrait nous relancer, la brute! Derrière eux, Suzanne Mercier, arrivant dans la cuisine, chargée des emplettes du marché, venait de les surprendre et du premier coup d'œil, elle avait compris, deviné Stéphane osant parler du passé. Et son amoureux se refusant à rien croire de toutes les forces de son honnêteté. Monsieur Mouillac eut alors un accès de joie fébrile. Cet allègement que donne la première respiration après un long étouffement. Près d'elle, c'était fini, il se sentait incapable de douter. Repris. Et Stéphane aurait pu lui en dire toujours, jamais il n'aurait entendu, tout entier à elle. Et lui jeta, balbutiant, son ivresse de la retrouver. Mon Dieu, comme je t'aime depuis qu'ils essaient de nous séparer! C'était leur premier tutoiement, le premier aveu d'intimité que, dans son règlement d'amour bourgeois, la fille en quête de mariage eût encore toléré, venue par une curieuse coïncidence, juste à propos de ce passé. Que son honnêteté de parade avait tenté de supprimer. Aller voir ainsi, Stéphane se sentit défaillir. Ben, si Denis m'avait bien dit que vous ne voudriez plus, que vous saviez tout, s'écria-t-il désespérément. Mais à ce nom, Suzanne Mercier s'était retournée, prise d'une exaspération. Ah, c'est la Ferramus qui t'a fait venir, hein, pitchoun! Ah, oh, la goupe, le sale torchon qui jette sa cochonnerie aux autres, comme si ça pouvait la débarrasser de la sienne. T'as donc monté la garde pour entrer pendant que j'y étais pas, le pauvre qui se figurait peut-être qu'on ne le connaissait pas. Elle éclata de rire, saisie d'un accès de violence gouailleuse. Avec ça qu'on ne te connaît pas, toi et ta mère. Ma mère? Stéphane s'était redressé livide. Ce nom dans cette bouche de fille l'affolait. Il approcha d'elle, les poings serrés, d'une voix étranglée, répondit. Misérable, si vous en parlez, avec ça que j'en parlerai pas, si ça me plaît. Avec ça que tout le monde sait pas ce qu'elle est venue faire ici avec le médecin. Oh, Suzanne, s'écria Monsieur Mouillac, Suzanne, tais-toi! Par exemple, s'écria-t-elle, je pourrais pas lui dire ses vérités, mais c'est connu maintenant qu'elle va chaque après-midi avec le beau Ferramus, et ça vient reprocher aux autres leurs affaires, malheur! Monsieur Mouillac avait déjà pris Stéphane, le poussant rudement. Va-t'en, tiens, je te chasse. Et comme Stéphane résistait, répétant, mais c'est infâme, infâme. Il s'emporta. Mais va-t'en donc, si tu ne veux pas qu'on en dise plus qu'il ne faut. Va-t'en, et ne reviens jamais, jamais. En même temps, il le traînait jusqu'à la rue, le prenant dans ses bras nerveux pour l'empêcher d'entendre, bégayant des gros mots, l'étourdissant de sa colère, cherchant à dominer la voix de Suzanne Mercier qui se haussait furieuse dans les diapasons aigus. Celle-ci les suivit, assistant, haineuse, à cette expulsion qui lui assurait enfin Mouillac, en dépit de tout. Et quand ils furent au seuil, comme Stéphane luttait dans une dernière étreinte, elle eut un cri de triomphe. Sans que M. Mouillac pût l'arrêter, elle s'écria d'une voix haletante pour fêter sa victoire. « Ta mère a donc pas assez du médecin qui veut empêcher les autres d'en prendre un. Elle était raide tout de même, mon petit. » La porte se referma brutalement avec un tressautement d'allégresse du marteau qui dansait dans son anneau, comme joyeux de garder sous son abri les deux amoureux. Stéphane se retrouva dans la rue. D'abord, il crut tomber. La vie se retirait de lui et tout tournait devant ses yeux dans un mirage de fièvre. Sa mère! Ces deux mots se heurtaient dans sa cervelle, lui arrachaient la perception nette des choses extérieures, l'absorbaient au point de lui ôter toute sensation. Un choc épouvantable venait de l'assommer. Il souffrait de n'être pas anéanti, de ne pas s'écrouler sur le pavé, de pouvoir encore marcher après un tel brisement de son cœur. Son existence entière lui paraissait s'effondrer. Il ne tenait debout que par un miracle d'énervement, avançant avec des gestes automatiques dans lesquels son corps se détendait. Chez les Mercier, la demeure s'était refermée, portes et volets y étaient clos. Aucune voix n'en venait plus, et ainsi enveloppée de silence, elle prenait, sous le ciel gris, des teintes plombeuses de prison. Stéphane la regarda une dernière fois, puis d'une allure machinale se dirigea vers le marché, dont le bourdonnement énorme l'attirait par une force invincible. Maintenant la vente battait son plein. L'éveil de tout belle pêche était achevé. Le grouillement des acheteurs s'était fait touffu, avec des oscillations irrésistibles qui poussaient vers les coins privilégiés. Autour de l'estrade des mesures, une bataille d'hommes avait lieu, les corps se moulant sur les sacs à demi soulevés par la pression. Des jurons éclataient pour des coutures crevées, par où le blé fuyait sur le sol, aussitôt piétiné et réduit en farine grise. Et au-dessus des têtes, avec une régularité de pendule, la chute du grain dans les hectolitres de bois rendait un son de glissement sourd, très doux, tandis qu'une poussière s'en élevait comme une fumée. L'air devenait irrespirable. Une chaleur intolérable desséchait les gosiers, éraillait les voix, haussait en fausset les cris de femmes et les odeurs de fruits trop vite mûris s'exhalaient violemment, affadissant le cœur, faisant voir la fête dans une ivresse. Peu à peu, cependant, les étalages avaient écroulé leur symétrie de parade, se vidaient dans la confusion des choix à la main. À chaque déchirure sur les bords de la masse piétinante, des gens s'échappaient en nage avec des paniers gonflés à éclater, les mains encombrées de volailles ou de victuailles. Et c'était une fièvre montante, un tumulte qu'exaspérait le roulement des corps les uns sur les autres, une mélopée stridente où l'on semblait devoir perdre la conscience de soi et n'exister plus. Stéphane en approcha, content du bruit, pris par un grand désir d'être écrasé dans la foule comme les autres. Et tout de suite il fut pris par le mouvement circulaire des acheteurs coudoyés à outrance. Sa mère, cette seule chose le frappait. On avait osé insulter sa mère. Il ne la raisonnait pas. Seulement il avait le vertige. S'imaginer avoir été suspendu une seconde au-dessus d'un gouffre, et une colère monta en lui contre Mouillac et le Mercier, car il ne les séparait plus, ni l'homme ni la femme, les faisant également méprisables et vils. Ainsi, c'était là le dénouement de son amitié avec M. Mouillac. Cela, le couronnement des dévouements dont il s'obstinait à garder la reconnaissance. Il serrait les poings rageusement, avec le désir d'écraser à coups de talon cette Mercier qui avait tenté de mettre sa mère à son niveau. Ses nerfs se détendaient dans une exaltation de fureur. Tout son être s'épuisait en gestes fous, mais malgré lui, la voix de la fille tintait à ses oreilles, le poursuivant de sa gouaillerie, devenant une obsession contre laquelle n'arrivait à le défendre ni lui-même ni le brouhaha furieux qui l'enveloppait. Pourtant, le flot d'hommes sous la halle montait encore. On eût dit que jamais la journée ne suffirait à finir tant de besogne, quoiqu'il fût 11 heures à peine. Chaque fois que Stéphane arrivait à un étal, des mots patois lui venaient, offres de fruits ou de champignons, avec des inflexions rauques où se cachait la volonté désordonnée d'exploiter un étranger. Mais quand il passait, n'écoutant pas, des injures suivaient ou des rires. Encore un qui venait embarrassé. Oh, on avait déjà tant de place pour la donner à des rien du tout. Oh, on savait bien pourquoi il venait là, traiter son corps. Un coureur encore, comme si le pays n'en avait pas assez. Mais lui n'entendait pas, ne voyait rien. Allait toujours, conduit par la poussée humaine. La même pensée le tenait et il la fixait, sans s'arrêter, magnétisé, par elle, transporté dans un monde douloureux. Pas une seconde, il n'avait douté. Cette calomnie lâche ne l'avait même pas effleuré. Sa propre naïveté le gardait du soupçon. Cependant, ce choc le laissait sous le coup d'une angoisse indéfinissable. Un danger formidable venait de passer près de lui. L'idée seule que pareille chose pût arriver à un fils, fût-il fils de fille, lui mettait un frisson dans les os. Elle était une de ces éventualités épouvantables qu'aucune de ses imaginations les plus osées n'aurait pu atteindre. Cela rentrait parmi les douleurs inouïes par lesquelles l'être se décompose, faute de les pouvoir supporter. S'il y avait cru, il serait tombé mort sur la place. Il se l'imaginait, du moins. Cependant, depuis la veille, c'était une succession de chutes dans l'abjection, et rien ne lui semblait plus vrai ni bon, mais tout devenait possible, si bien qu'un doute inconscient le mordit, lui jetant l'effroi des sols qui vacillent. Sa mère, elle, si parfaite en l'accomplissement du devoir, si haute en sa vertu qu'une froideur s'en répandait autour d'elle, sa mère, si au-dessus du réel et des bassesses du monde qu'elle coudoyait sans s'y salir, elle, l'expression la plus pure de la loi saintement accomplie et gardée, on osait en parler. Ainsi rien n'était épargné, tout était calomnié, souillé. Or, mieux valait se mettre au-dessus ou en dehors de tout. Une lumière éclaira le passé. Il comprit leur isolement de là-bas. La vie de Toulouse, ce dédain profond immuable de Madame Deschantres pour ce qui n'était plus elle. Et à son tour, il désirait ardemment s'enfuir, ne voulant plus de cette bataille où les respects les plus sacrés succombent. Et il reniait son amitié, les joies qu'elle lui avait données, se reprochait son ami et cette folie égoïste qui vous jette dans les bras d'un autre sous prétexte de confidence. L'amitié, allons donc. Il répétait à demi-voix, dans une excitation de rancunes amères. Ah, n'avoir connu personne, n'avoir connu personne. Et tout à coup, une poussée se fit dans la foule, plus violente que les autres. Au dehors, un coup de tonnerre lointain avait grondé, et des gouttes tombaient, s'étalant une à une d'abord, comme si l'orage qui depuis la veille vaguait dans l'air n'avait pu éclater. Il y eut un débordement de colère de femmes. La masse trop compacte des acheteurs piétinait les étalages, bousculant les merceries, choquant les vaisselles, tandis que des rires d'hommes montaient, réjouis par cette ondée qui venait. Des exclamations s'échappèrent. « De l'eau, hein, ça va tomber, peut-être !» Tous éprouvaient une anxiété. Si ce n'était qu'une passade, une de ces averses bonnes tout au plus à abattre la poussière, ou à faire ensuite craqueler la terre sous les coups de soleil. Et brusquement, Stéphane se trouva ramené au bord de la halle. Une poussière humide vint lui battre les joues de sa fraîcheur, et il respira longuement. Ce cauchemar, le suivant, sans une seconde de trêve, l'étouffait. Au contact de la détente d'atmosphère, il aurait voulu se détendre aussi, redevenir tout le monde. Et brutalement, il enviait les paysans, qui autour de lui riaient de la pluie, n'ayant que leur terre ou les fermages des bordes en tête, et les demi-bourgeois de Bellepêche aussi, qui, sourires béats, joues empâtées, prenaient l'air de connaissance dans le tohu-bohu. Il les enviait tous, s'imaginant que rien de douloureux ne pouvait battre sous ces faces immobiles, ne sachant pas que les vraies tragédies, plus que les autres, se jouent sous un masque rigide. Peu à peu, l'averse augmentait et les gouttes se serraient les unes les autres, leurs cercles se confondant sur le sol. Des flaques se dessinaient avec des reflets de cuivre. C'était la vraie pluie, une pluie d'orage où l'eau coule régulièrement, sans avalanche, et une jubilation saisit chacun. Autour de Stéphane, des cris partirent. « Oh, ce que les grains vont grossir !» Oh, c'est le raisin noir qui en avait besoin. D'autres reprenaient. Depuis hier, c'était dans l'air, hein, Saint-Cernin, le vent d'autant voulait déraciner les maisons. Et tout un cœur s'écriait. Bonne affaire, tout de même, bonne affaire. Le roulis de la foule sous la halle avait stoppé. La roue humaine ne tournait plus, pétrifiée de bonheur. Chacun regardait avec délice, happant un peu de l'air frais qui soudain balayait les piliers. Les plaisanteries montaient dans un ravissement de voir enfin le ciel se mêler pour tous de la culture. Et il n'y avait plus besoin de ad factice, on ne s'imposait plus de lamentation d'ordonnance sur la mauvaise année. Mais oublieux des intérêts, sans songer qu'on amènerait sûrement une baisse de prix, chacun s'extasiait, le verbe haut, disant que jamais le vin n'aurait été si bon et la récolte si préparée. « Bonjour, cousin !» fit tout à coup derrière Stéphane la voix de Sidonie. Il se retourna, étonné de la rencontrer là. Elle aussi était prise par l'allégresse universelle, mise en verve par cette ondée assurant les vendanges. Et se sentant d'humeur moqueuse, elle l'avait abordée pour juger des traces de sa confidence de la veille et résolue à l'interroger. Un beau temps, n'est-ce pas? Ah, oh, ça fera la joie de Marc et de bien d'autres. Je vous en réponds. Eh bien, et vous?
Moi?
Oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Que voulez-vous que j'en pense?
C'est fait, votre affaire? Il rougit brusquement, mais la regarda sans répondre. Elle reprit, sans pitié pour sa détresse. « Alors, y avez-vous été ce matin? Qu'est-ce qu'il a dit, votre mouillac ?» Il eut un haussement d'épaule et répliqua d'un ton bas. « Non, laissons cela tranquille. Non, il est inutile d'en parler. » Mais elle insista méchamment. « Mais au moins la mercier, vous a-t-elle bien reçue? Elle vous devait pour l'amour de moi. » Mais se mettant à rire de tout cœur, « Allons, fit-elle, vous savez maintenant qu'elle est faite comme les autres. Il arrive un âge où il est bon de s'instruire. » Ils se turent, elle sentant soudain qu'elle venait de le blesser, et lui gardant les paupières baissées. Devant eux, l'eau tombait avec un bruissement gazouilleur, mettant son rideau entre la halle et les maisons, et sous sa caresse inattendue, les ormes de la place balançaient leurs branches comme bercées. « Mais vous êtes sans parapluie, » reprit Sidonie, « mais comment retournerez-vous à la Visa ?»« Bon, cela m'est égal, » fit-il, « je vais repartir. Ma mère avait ce matin un sérieux début de migraine, elle a besoin de moi. » Il disait cela pourtant sans se mouvoir, éprouvant un immense désir de se dégonfler du chagrin horrible qui l'étreignait. Près d'elle, même quand elle se montrait dure, un attendrissement le prenait. Il eut presque envie de lui avouer cette torture sous laquelle son cœur étouffait, mais, au moment de parler, il eut un geste violent. Pouvait-il seulement répéter ces choses, ce dont on accusait sa mère? Non, son désespoir le reprit. « Adieu, répondit-il, la pluie durera longtemps. » « Adieu, répondit Sidonie. » Et déjà, il avait quitté la halle, baissant la tête sous l'eau qui le fouillait, quand elle le rappela. « À propos, Marc, hier soir, vous vous souvenez ?» Il s'était arrêté, saisi d'une angoisse irraisonnée. Elle continua gaiement, avec un signe d'adieu du bout de la main. « Quand je vous disais que j'étais folle, encore un tour de Baptistine. » Elle l'avait envoyé chez la garde de Lillers pour une truite ou je ne sais quoi. « Mais pourquoi me racontez-vous cela ? » s'écria-t-il d'une voix rude. « Mais est-ce que moi j'y peux quelque chose ?»« Mais Dieu, mais sur quelle herbe avez-vous marché, cousin ? » fit-elle interloquée. « Mais quand vous viendrez me voir, tâchez d'être de meilleure humeur. » Mais il ne l'entendit pas, étant déjà reparti à longues enjambées. Une question effrayante venait de se poser en lui. Pourquoi Sidonie, la veille, avait-elle cru son mari à la Visa? Il revoyait son embarras quand il l'avait questionné. Aujourd'hui encore, son insistance à y revenir, elle aussi, croirait-elle? Alors, ce bruit infâme courait donc. Il n'était pas seulement dans l'imagination de la Mercier ou de ses pareils. C'était une rumeur, un de ces potinages scandaleux qui se lèvent des villes comme la honte au bout de leurs pavés. Il avança, transpercé par la pluie, à demi-ivre. De nouveau, il s'enfonçait dans un abîme. Chaque seconde grandissait son désastre. Il semblait même que son acuité d'esprit s'exagéra pour en percevoir plus nettement les détails. Dans sa naïveté, il n'avait cru qu'à une injure, en l'air, lancée durant une colère folle, une chose sans portée qui ne les pouvait atteindre. Mais tout à coup, il devinait, dans cette calomnie, un écho. Derrière lui, toutes les voix du pays s'élevaient, et jusqu'aux cris du marché, par lesquels il s'imaginait bafoué, sali. Ah, la nature, les champs, l'apaisement de la vie calme, le silence de tout, c'était donc cela. En haut, le cœur lui vint à sentir cette accusation même implantée en lui, car au fond de son âme, quelque chose criait maintenant. Si c'était vrai, quoi? Mais bon, il ne savait pas, s'épouvanta. De toutes parts, une odeur délicieuse de verdure mouillée et la fraîcheur parfumée des branches s'élevaient. Un renouveau de gaieté surgissait de la terre sous l'ondée finissante. Les teintes s'assombrissaient, et à voir ainsi la nature sourire dans sa coquetterie triomphante, lui se prenait d'un désespoir. Pas une chose, pas un être qui fût avec son cœur. Personne pour crier la vérité, jeter un démenti indigné, pas même Sidonie. Car elle y croyait la veille quand elle était venue, il en était sûr, comme il avait été sûr que la Mercier avait une mauvaise femme ou que Marc lui ferait du mal. C'était une intuition, une sorte de double vue qui lui laissait la conviction irrésistible. Il semblait même que sa conscience aussi fût complice, tant des doutes le serraient malgré ses efforts pour les étouffer. Les deux mots de Sidonie avaient été l'étincelle jetée sur la meule. Tout se précisait, s'éclairait d'un jour effrayant. Pourquoi Marc n'était-il jamais au château l'après-midi? Pourquoi sa mère en parlait-elle si souvent? Pourquoi son antipathie résonnait flagrante? Pourquoi, pourquoi? Cela scandait sa marche, l'aveuglait. Une avalanche l'avait saisi et il roulait avec elle. À l'arrivée à la Visa, il eut un soupir d'allègement. Il allait voir sa mère. À pouvoir lui parler, à demeurer près d'elle, il s'imaginait qu'il serait mieux. Cela chasserait les fantômes qui le hantaient. Il monta 4 à 4 et, sans frapper, joyeusement, entra dans la chambre. Madame des Champs eut un sursaut de frayeur. « Oh, tu m'as fait une peur atroce !» dit-elle d'un ton rogue. « Ce serait le moyen d'y prendre garde quand tu me sais malade. » Il s'était arrêté net, glacé par cet accueil, et comme il allait s'avancer pour lui demander pardon, elle l'aperçut, les vêtements désordres, mouillés, crottés. « Mais ne m'empoche pas !» fit-elle sèchement. « Je me soignerai bien toute seule. » Du moment que tu courailles, je sais pas où, au lieu de me venir en aide, j'ai plus besoin de toi. Mais ma mère, oh, laisse-moi, tu me fais tant mal. Je ne peux pas parler. Allez, va où il te plaira, pourvu que ce ne soit pas ici. Il voulut insister. Va-t'en, tu m'épuises, s'écria-t-elle brusquement, se retournant sur l'oreiller. Il descendit. Sa mère le repoussait aussi. Il avait un poids énorme sur la poitrine et, désespéré, il se mit à errer le long en large à travers la cuisine et la salle à manger. La fille de Borde soufflait sur des fagots pour préparer des tisanes, le suivant de son regard atone de bête de somme. Étonné de son agitation, moitié patois, moitié français, par compassion, elle s'adressa à lui. « Ça va donc pas là-haut, monsieur ?» À voir les hochements de tête navrés de Stéphane, on lui dit en effet que sa mère était très mal. « Oh, ça ne sera rien, fit-elle. Ça se passera l'après-midi, oh, vous verrez. » Il se redressa comme sous un coup de fouet. « Mais pourquoi dans l'après-midi » demanda-t-il d'une voix qui tremblait de colère. Il s'imaginait maintenant que tous, du haut en bas de l'échelle sociale, savaient le secret par lequel il était rongé et que tous en voulaient rire. Mais pourquoi l'après-midi? Serait-ce par hasard que le médecin viendrait? Car il croyait désormais à la venue du médecin. La voix qui tout à l'heure lui disait « Qui sait ?» contre laquelle il s'était débattu désespérément, s'élevait en lui irrésistible, et il s'y abandonnait dans une débâcle ne luttant plus contre le soupçon. En 2 heures, il avait accompli cette chute, fermé les yeux devant l'honneur de sa mère pour discuter des accusations de fille. Oh, honte! Dès lors, il éprouva la terreur de la visite de Marc. Pourtant, quand même Marc serait venu, quand tout eût été vrai, son être intime se serait encore révolté, reniant ses infamies. Il en était à ces heures où la réalité vous jette dans un délire, où rien n'est plus faux ni vrai, où rien n'existe plus que la douleur aiguë. L'après-midi entière, il attendit. Le soir commençait. La pluie apaisée avait laissé dans l'air une saveur chaude et mettait comme une légèreté dans les membres. Marc n'était point venu. Stéphane eut une exaltation de joie. Qu'avait-il donc pensé? Quelle folie ainsi l'avait tenu? Cette erreur sans doute avait été provoquée par un accès de fièvre. Et maintenant, celle-ci tombée, il allait rentrer dans le calme d'auparavant, enfin. Alors il s'abandonna à une impression d'anéantissement très doux. Il ne pensait plus, il ne vivait plus. Mais une voix en lui chantait. Marc n'est pas venu, Marc ne viendra pas. Il s'était assis dans la salle à manger, fermait les yeux, goûtait avec enivrement l'absolu silence de la demeure, quand soudain des pas retentirent dans le corridor. Il se leva brusquement en poussant un cri rauque. « Marc ! » cria-t-il. « Eh bien, qui appelles-tu donc ?» demanda Madame Deschantes qui entrait. « Oh, maman, c'était vous, oh, vous m'avez fait peur. » Elle l'examina étonnée. Mais lui, maintenant, éprouvait une folie de joie, et se jetant au cou de sa mère, il lui cria « Oh, maman, quel bonheur que ce soit toi! Tu vas mieux, n'est-ce pas ?» y mettant une accentuation si tragique qu'elle en demeurait stupéfaite. « Mais oui, Fifi, je vais mieux, bien mieux !» répondit-elle en l'embrassant. « Oh, quel bonheur » répétait-il. Et il se mit à parler à bâton rompu, ivre, délirant à force de contentement éperdu. Près d'elle, tout s'effaçait. Sa journée lui apparaissait comme une sorte de non-sens, une de ces tentations impures par lesquelles l'âme parfois est assaillie. En même temps, il retrouvait, pour sa mère, ses adorations, et se trouvait si bas qu'il aurait dû s'enfoncer dans le sol pour lui demander pardon. Elle voulut aller dehors. Alors ils s'assirent sur le seuil, silencieux l'un et l'autre. Au bout de l'allée, un mouroulement ininterrompu s'élevait. Le marché commençait à s'écouler, semant sur les chemins la gaieté des sonnailles. C'était au loin un éparpillement de voitures, des piaffements, des claquements de fouet, et partout le retour joyeux faisait monter sa grande voix, cette voix formidable qui tout à l'heure avait affolé Stéphane. À l'horizon, le roulis des charrettes mettait un éclat sourd que coupaient soudain les passages des Tilbury à fond de train. Sur la route, un piétinement noir de paysans s'échelonnait. C'était une fin de jour délicieux, l'ondée ayant jeté des fraîcheurs embaumées. Les hirondelles voltaient avec des courbes basses, semblant nager dans l'air humide. Au couchant, le soleil flambait avec des rayonnements d'or rose, tandis que les nuages prenaient des teintes de vieux cuivre ou de chevelure rousse. Brusquement, il sentit qu'il avait été halluciné. Il ne se comprenait même plus. Il croyait revenir d'un délire, et une honte le prit, un amer regret des ombres de soupçons dont ses heures avaient été empoisonnées. Le vrai, enfin, le ressaisissait. Il eut un mouvement d'instinctive expiation, et se jetant au cou de sa mère, Oh, maman, fit-il doucement, laissez-moi vous embrasser.
Mais qu'as-tu donc aujourd'hui? Demanda Madame Deschantres.
Mais sans répondre, il la couvrit de baisers. À ce pur contact, il se reprenait lui-même. Il lui semblait effacer jusqu'aux traces des visions qu'il avait hantées, devenir très fort pour accueillir les luttes de la vie, et il défiait à cette heure toutes les colères de la Mercier, toutes les calomnies infâmes. Cette grande voix, surtout du marché, qui répandue sur la plaine, s'assourdissait peu à peu, merveilleusement majestueuse, sous les rayons rouges du jour qui finissait.